Chalie m'était comptée. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La dernière émission s'est terminée sur l'évocation d'un personnage important pour Chalie juste avant la Révolution. Il s'agit de son prieur, nommé Christophe Ferrou, Don Ferrou. Et Don Ferrou s'inscrit donc dans la longue tradition des supérieurs de l'abbaye de Chalie, qui sont des docteurs en théologie. Et c'est ainsi qu'on avait terminé une partie de notre discours dernier. Il partage avec l'abbé commendataire le souci de préserver l'inaliénabilité de la propriété religieuse. Il demande expressément le retour à l'organisation de l'ordre cistercien au temps des abbés réguliers, c'est-à-dire pour Chalie avant 1541. Et je répète que sans l'affronter directement, il regrette le régime de la commande. Confronté au problème des dettes que connaît l'abbé de Chalie, il fait un certain nombre de propositions, mais aussi de méthodes, on l'a vu, pour accroître les revenus de l'abbaye. Pour ce qui concerne les dettes, je vais essayer de résumer rapidement. Il dit, mais il ne faut pas avoir recours à des financiers de l'extérieur. Pourquoi ne pas concevoir une épargne dans chaque abbaye de l'ordre cistercien et que cette épargne soit ensuite utilisée pour prêter à des abbayes nécessiteuses. En gros, si vous voulez, les intérêts étaient à peu près à cette époque, avec les banquiers, de 5%, hein, pour résumer rapidement. Et il dit, ben, on va obliger quand même, dans cette mesure, les abbayes à faire de l'épargne, et elles pourront prêter à leur tour, mais non pas à 5%, mais à 4%. Ben, bien sûr, parce que l'abbaye, elle n'est pas nécessairement chargée de tenir le rôle d'une banque. Et son système tient assez bien. Et le 1%, évidemment, qui n'est pas dépensé, peut être aussi à son tour thésaurisé, etc. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans tout le système, mais il semble cohérent. Il semble cohérent. Est-ce qu'il a été appliqué? La réponse est non. Alors, bien sûr, la Révolution est arrivée peut-être trop tôt ou plus tôt. Peut-être on peut penser que les abbayes, surtout les plus fortunés, n'ont pas envie, en quelque sorte, de payer pour celles qui auraient fauté, en quelque sorte, et qui n'auraient pas entretenu comme il fallait le patrimoine, en quelque sorte, dont ils sont les propriétaires terrestres. Quant à l'agriculture, qui permettait évidemment une grande partie des revenus, car ça fait longtemps que les moines ne cultivent plus, on peut considérer que, au milieu du XIIIe déjà, n'imaginez pas le moine de cœur, le prophète, comme on dit, hein, cistercien avec une bêche en train de labourer, n'est-ce pas, les champs. Non, ils ont délégué ce travail manuel depuis longtemps à des personnages qu'on appelle les converts, conversus, ceux qui se seraient convertis. Ouais, les converts, bah, ce sont des gens qui ont une situation un peu particulière, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans les granges, on avait parlé déjà ensemble des granges, mais ils ne sont pas rétribués. D'ailleurs, ils sont comme les moines, on leur donne évidemment le logement, le boire et le manger, mais c'est tout. Hein. Donc, depuis le milieu du XIIIe, on considérait que ce sont les converts qui font le travail manuel, mais aussi, comme ils ne suffisent pas, parce que les converts, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, au bout d'un moment, ils se disent, ben, attendez, nous, on travaille pour rien. Alors qu'à côté, ils ont des ouvriers qu'on appelle les mercenaires, Harry. Les mercenaires, le terme est assez intéressant en latin, qui sont payés, et puis il y a ceux qui sont payés annuellement, hein, qui sont en CDI, en quelque sorte, et puis il y a ceux qui sont simplement des journaliers, et qu'on leur vient chercher en fonction, évidemment, des demandes, des travaux, qu'exigent les travaux agricoles. Donc ça, c'est pour vous dire que la légende cistercienne a fait long feu, en quelque sorte, et que les moines sont confrontés aux problèmes économiques et sociaux, comme tout groupe qui vit dans cette royauté en danger, surtout à la fin du Moyen-Âge, dès le XIVe, n'oubliez pas les épidémies de peste, puis ensuite, bien sûr, la guerre de Cent Ans, enfin bon, je passe sur tous ces troubles. Alors lui, il dit, il faut, pour améliorer en quelque sorte les revenus de l'abbaye, il faut faire deux choses. D'une part, il faut améliorer les cultures par elles-mêmes, utiliser d'autres techniques, Et puis surtout, il faut défricher. Ça fait longtemps que les moines de Chély ne défrichent plus. Et même au contraire, ils ont laissé en friche un centre de terre qu'ils estimaient moins intéressante à bonifier, en quelque sorte. Donc, ils proposent une utilisation des sols en défrichant, et quand on pense à Chély, en drainant. Hein. N'oubliez pas que Chély est installé sur un fond de vallée humide et qu'il faut absolument que ce marais soit transformé pour le rendre accessible à la culture maraîchère, par exemple, ou à la sylviculture, qui, évidemment, pourrait améliorer les revenus de cette abbaye. Il propose également une rotation, non seulement des cultures, mais aussi une rotation de la réserve. Alors, la dernière fois, on a parlé de la réserve, c'est-à-dire d'une certaine quantité de la forêt appartenant à l'abbaye, que l'on devait garder au cas où. Au cas où il y aurait des tempêtes, au cas où il y aurait des incendies, au cas où il y aurait une guerre, on pourrait ainsi piocher dans une réserve, en quelque sorte, de bois, soit en l'utilisant, soit en le vendant. Mais cette réserve n'est pas accessible. Hein. C'est-à-dire que les moines ne peuvent pas décider de l'exploiter. Et lui dit, mais c'est scandaleux, parce qu'on a des réserves de bois qui ont plus d'un siècle, mais le bois, il est pourri, il ne vaut plus rien. Donc, il faut absolument changer le système d'exploitation de cette forêt et utiliser la réserve, c'est-à-dire exploiter tous les 30 ans. On fait des coupes, on recèpe, c'est-à-dire qu'on va laisser les souches faire des rejets, en quelque sorte, que l'on va trier et ainsi régénérer la forêt. Et c'est tout à fait, d'ailleurs, une technique qui peut se comprendre encore maintenant. Alors, je répète quand même, avant de quitter ces problèmes financiers, il a quand même un point commun avec les abbés commendataires. Il ne veut pas que la propriété ecclésiastique soit considérée comme n'importe quelle propriété. Il faut qu'elle soit inaliénable. On ne doit pas appliquer à cette propriété le droit romain traditionnel. On doit appliquer le droit canonique, c'est-à-dire le droit de l'Église. Et il revient évidemment sur ce fameux endettement provoqué par le comte de Clermont. Il dit, mais n'oubliez pas que si des rois comme Charles Martel, Jean le Bon ou François Ier ont pu faire de leur royaume quelque chose de puissant, c'est grâce au clergé. Il n'a pas tort sur le rôle du clergé, d'ailleurs. Hein. Enfin, ça, c'est un autre problème. Pour ce qui est de l'amélioration des cultures, avant de quitter ce sujet, je voudrais évoquer un personnage intéressant qui vivait d'ailleurs à la même époque que Don Ferrou. Peut-être l'a-t-il rencontré, puisque ce personnage vient à Ermenonville, entre autres. Hein. Il s'agit de l'abbé Rosier. L'abbé Rosier, c'est un abbé qui a parfaitement connu Jean-Jacques Rousseau, qu'il a reçu dans son jardin expérimental à Lyon, d'ailleurs, et qui vient voir le marquis de Jardin, qui lui écrit, après la mort de Rousseau, en lui disant, voilà, moi, je connaissais bien Rousseau, est-ce que vous pourriez m'obtenir un buste de Rousseau ? Vous savez que le marquis faisait dupliquer les bustes de Houdon et les distribuait à gauche et à droite. J'ose penser quand même qu'il ne les vendait pas, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Donc on a un courrier de l'abbé de Rosier au marquis du Jardin. Mais ce qui m'intéresse dans l'abbé de Rosier, c'est son travail d'agronome. C'est quelqu'un de tout à fait pertinent qui s'installe à Lyon. Ensuite, il a démêlé avec sa hiérarchie, peu importe. Et il va écrire un cours d'agriculture qui est une véritable encyclopédie de l'agricole. Auparavant, il avait été un spécialiste de la vigne, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Il propose une meilleure utilisation des sols. Hein, et bon, je n'ai pas le temps d'évoquer le travail de l'abbé Rosier, mais simplement de vous dire qu'il est intéressé à notre région, parce qu'à son tour, il va devenir un prieur commendataire de Nanteuil-Laudouin. Bon, c'est une façon de lui donner un revenu. Hein. Mais également, seigneur de Chèvreville. Vous voyez, il est quand même assez implanté dans notre région. Alors, ces grandes réformes proposées par Don Ferrou, hélas, n'auront pas d'application. Mais j'aurais quand même insisté sur ce personnage, et en terminer peut-être avec ce personnage, en disant le rapport qu'il a entre les idées politiques. Alors, à savoir que, bon, il y a des choses très simples, il était dans l'air du temps, il n'y a que la terre qui génère de la richesse. Hein. Donc là, il est tout à fait, évidemment, dans la philosophie du temps. La deuxième chose, et c'est là où on va trouver une influence tout à fait étonnante, c'est qu'il est contre la ville. Pour lui, la ville est la source de tous les péchés. C'est-à-dire qu'on va, le prieur commendataire, par exemple, ou les nobles, qui viennent jamais sur leur domaine, utilisent l'argent pour le dépenser à des choses luxueuses, sans intérêt, à la ville. Et il se lance dans un de ses ouvrages sur une longue diatribe contre la nuisance des villes, en disant que non seulement c'est un lieu de perdition, à la fois morale et économique, mais c'est aussi une dénaturation de l'humanité, espèce de culture hors sol des hommes, en quelque sorte, dans ces centres urbains. Il est très proche d'un homme qui n'est pas loin de Chialy, à cette période. Il n'est plus à ce moment-là vivant, c'est 1778, c'est Jean-Jacques Rousseau. Il partage avec Jean-Jacques Rousseau cette idée de la ville comme étant la source de tous les maux, de grande partie des maux de la société. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans un de ses textes, quand il parle de Chialy, il parle de l'abbaye qui est près du tombeau de Jean-Jacques. Jean-Jacques, carrément. Vous voyez, moi, quand je dis Jean-Jacques en parlant de Rousseau, je trouve que c'est un petit peu osé. Mais maintenant, je suis content, j'ai les prédécesseurs, parce que même le prieur de Chialy ne dit pas Jean-Jacques Rousseau, mais l'appelle Jean-Jacques. Donc, vous voyez, on est loin aussi des schémas traditionnels avec le clergé réactionnaire, le haut clergé réactionnaire et tout ça. Non, ça dépendait des individus, là encore. Cela dit, il n'en reste pas moins qu'au moment de la Révolution, l'abbaye est véritablement dans un état de délabrement important. Et on le verra quand on va étudier les inventaires qui sont effectués par les habitants de Fontaine-Chély. Donc, ce ne sont pas des jérémiades, en quelque sorte, qui représentent l'essentiel des interventions de Fréroux. C'est un état des lieux catastrophique pour ces grandes abbayes qui disparaissent les unes après les autres. Avant la Révolution, je vous rappelle qu'une abbaye proche de Chély, qui s'appelle l'abbaye de la Victoire, dont il reste encore quelques éléments médiévaux, a été démolie, a été déconstruite, comme j'aime à le dire, sur les ordres de l'archevêque de Reims, sous la surveillance de l'évêque de Senlis. Vous voyez, donc, on n'est pas dans le cadre d'une horde de méchants révolutionnaires qui viennent attaquer les bâtiments abbatiaux. C'est un peu plus complexe que ça. On veut la suppression de ces grandes abbayes rurales, pour des tas de raisons qu'il n'est pas lieu, évidemment, de développer ici. Et ça commence avant la Révolution. Ça s'organise avant la Révolution. Tout ça pour dire aussi que cette Révolution qui arrive, que l'on sent quand même, eh bien, elle n'est pas le fait d'un hasard ou d'un miracle, entre guillemets. Elle a déjà ses sources dans des réformes profondes qui déjà étaient mises en place sous Louis XV et Louis XVI. Mais nous en verrons le détail en étudiant la Révolution à l'abbaye de Chély, à Fontaine-Chély, puisque, je l'avais dit lors de la précédente émission, nous avons eu la chance de retrouver les archives de Fontaine-Chély pour cette période, fin 1790-1793. Ce sont des centaines et centaines de pages qui nous expliquent évidemment la mise en place d'un nouveau système de gouvernement pour la France, mais également pour ce qu'on appelle de nos jours les collectivités locales.
C'était « Si Chély m'était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chély.